France Culture.
Les nuits de France Culture.
Nuit, Michel Piccoli. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans les Nuits de France Culture pour une nuit consacrée à Michel Piccoli. Le 12 mai 2020 disparaissait Michel Piccoli. La nuit que nous lui consacrons sera tout simplement l'hommage que nous devions rendre à un immense comédien. Un hommage qui, égoïstement, est, avouons-le, le prétexte pour s'offrir le plaisir d'entendre sa voix durant toute une nuit. Ce sera là peut-être aussi l'occasion de découvrir comment Michel Piccoli est devenu Michel Piccoli et comment il l'a été à tous les âges de l'une des plus riches et des plus libres carrières d'acteur de théâtre et de cinéma que l'on ait connu. Lecture, fiction, invité sur notre chaîne à l'occasion d'un spectacle de la sortie d'un film, pour y parler des grandes rencontres de sa vie de comédien, pour y parler d'un ami comme André de Richaud, tout au long de cette nuit, nous entendrons donc la voix de Michel Piccoli. Comme cette nuit ne suffisait pas pour faire entendre toutes les émissions intéressantes que nous avions sélectionnées dans les archives de l'INA, les auditeurs auront l'occasion d'en entendre certaines dans nos programmes nocturnes des semaines et des mois à venir. Et dès demain d'ailleurs, nous serons à nouveau en compagnie de Michel Piccoli pour une longue promenade dans les rues et l'histoire de Barcelone. Pour ouvrir cette nuit, nous sommes avec Anne-Sophie Mercier, auteure de Piccoli derrière l'écran, publié chez Alary Éditions, un livre qui s'attache plus particulièrement aux aspects et aux périodes les moins connues de l'existence de l'acteur, c'est-à-dire son enfance, son histoire familiale, sa jeunesse et ses débuts de comédien. Bonsoir Anne-Sophie Mercier.
Bonsoir Alban.
Et tout d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation. Liberté, n'est-ce pas le mot qui définirait le mieux la vie, la carrière de comédien de Michel Piccoli?
Je suis totalement en accord avec cette affirmation. Je crois que c'est un homme qui, toute sa vie, a voulu être libre, que personne ne lui dicte sa conduite, ni en matière artistique. L'exemple qu'il donnait souvent et qui est très probant, c'est celui d'avoir travaillé avec Marco Ferreri toute une partie de sa vie et avec Claude Sautet aussi une partie de sa vie, souvent les mêmes. Donc c'est un homme qui allait d'un univers à l'autre et qui ne voulait pas qu'on l'enferme quelque part. Ça a été vrai aussi sur le plan politique. C'est quelqu'un qui s'est beaucoup battu, qui était évidemment, qui avait le cœur qui battait à gauche, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais à qui il ne fallait jamais dicter sa conduite. Jamais.
Pourquoi décide-t-on de consacrer un livre à Michel Piccoli, Anne-Sophie Mercier?
Vous savez, je pense que c'est souvent la même chose pour tous ceux qui décident de consacrer 2 ans, 3 ans de leur vie à une biographie. Il y a des images d'enfance qu'on n'oublie pas, des émotions, des soirées où on va se coucher après avoir vu un film, une image, on n'arrive pas à dormir tellement on est agité, tellement on est ému. C'est mon cas à moi, ça doit être le cas d'un certain nombre de gens en ce qui concerne Michel Piccoli. Moi, j'ai vu Le Sucre quand j'avais 14 ans. D'une certaine façon, je m'en suis jamais remise. Et bien des années plus tard, j'ai eu envie d'écrire sur Michel Piccoli.
Il était du côté de sa mère un enfant de la haute bourgeoisie, mais d'une haute bourgeoisie déjà à l'aube de son déclassement quand lui-même vient au monde en 1925.
Oui, c'est une famille effectivement très fortunée qui a bâti son empire dans la peinture. La peinture industrielle, celle qu'on utilise pour les bâtiments. Et la famille de la mère de Michel Piccoli, qui s'appelle les experts Besançon, et ce sont des industriels très puissants. Le grand-père est le maire du 13e arrondissement, sénateur, financier du Parti radical. Il connaît le tout Paris politique. C'est un homme puissant et qui, à mon avis, a beaucoup marqué la vie de Michel Piccoli. Il ne l'a pas connu d'ailleurs, contrairement à ce que lui-même raconte. Il raconte qu'il se souvient d'un déjeuner avec son grand-père qui n'a tout simplement pas pu exister. C'est dire à quel point cet homme l'a marqué, puisqu'ils ne se sont jamais croisés.
Des parents musiciens, un père violoniste, une mère pianiste, mais pas des artistes, plutôt des travailleurs de la musique menant une existence guidée davantage par l'économie et la raison que par le désir et la fantaisie, Anne-Sophie Mercier.
Oui, d'ailleurs. D'ailleurs, on sent bien chez Michel Piccoli, qui est un artiste aussi et qui a vécu son art tout à fait autrement, dans la folie, dans la démesure, dans la prise de risque, on sent bien qu'il a jamais très bien compris cette façon, effectivement, d'être des fonctionnaires de l'art, hein, avec sa mère qui était prof de piano, son père violoniste. On travaille toute la journée, on fait rentrer 3-4 petits sous. Il y a une espèce de médiocrité de l'existence familiale qui l'a toujours gêné, et je pense qu'il s'est mis à l'écart de ça aussi.
Il disait même que ses parents lui avaient servi de contre-modèle.
Oui, enfin, c'est compliqué parce que ses parents lui ont servi de contre-modèle, et à la fin de sa vie, enfin, quand il avait la cinquantaine, la soixantaine, il reconnaissait bien volontiers tout ce qu'il leur devait, parce que ces petits fonctionnaires de la musique, en apparence étriqués, sont des gens qui l'ont suivi dans tous ses choix. Et quand, à l'âge de 18 ans, il dit « je veux être comédien », rien ne dit que Michel Piccoli pourra être un grand comédien, ils disent d'accord. Et il fait tout et n'importe quoi, il expérimente des tas de choses au théâtre, ils sont toujours là pour le gîte, le couvert, les encouragements. Piccoli n'a jamais eu à faire de choix alimentaires dans sa jeunesse, et il a reconnu avec beaucoup d'honnêteté qu'il le devait à ses parents.
C'était davantage du côté de son oncle, le frère de son père et de sa tante, que Michel Piccoli disait avoir connu, ressenti la joie de vivre, le désir artistique. Un oncle et une tante, eux aussi, respectivement, violonistes et pianistes.
Oui, c'est très étonnant dans la vie de Michel Piccoli, cette espèce de couple jumeau qui existe dans sa vie, le frère de son père, la femme du frère de son père, cet oncle, cette tante, qui, eux, vivent effectivement leur art dans la folie, qui l'ont aimé passionnément, qui lui ont apporté mille choses, et dont, ce qui est formidable, les parents n'ont jamais pris ombrage. Jamais pris ombrage de cet amour et de ce qu'ils sentaient chez leur fils, c'est-à-dire l'envie d'être l'enfant des autres. Et il y a une espèce de hauteur de vue dans cette acceptation, je trouve.
Enfant, Michel Piccoli, petit-fils plus précisément, donc nous l'avons dit, de la haute bourgeoisie, mais pour autant une enfance qui ne fut pas une enfance dorée. Ce n'était pas la richesse, une vie qui manquait d'air et d'espace dans un appartement familial très très modeste.
Oui, parce qu'il y a eu une très grande fortune familiale du côté de la mère, on en a parlé tout à l'heure. Maintenant, cette fortune qui a été faite sur la peinture à base de blanc de plomb qui a donné le saturnisme à des milliers d'ouvriers en France, cette peinture a été interdite de fabrication après la Première Guerre mondiale, et il a fallu à la famille se reconvertir. Et la reconversion a été douloureuse, donc quand Michel Piccoli naît en 1925, une partie de la famille reste fortunée, l'autre non, et c'est comme vous le dites très justement, il vit une enfance dans un petit appartement à côté de la place d'Italie, on ne roule pas sur l'or chez les Piccoli. On roule sur l'or chez une partie de la famille de sa mère.
Un appartement dans lequel il disait ne jamais avoir eu la moindre intimité.
Non, en effet. Il faut savoir que Michel Piccoli, il l'a dit sans amertume excessive, avec un petit sourire peut-être dans les yeux, a été conçu par ses parents comme un enfant de remplacement. Il arrive après un frère qui a été adulé, qui est mort prématurément. Et on l'accepte parce que il en faut un autre. Mais on ne lui a jamais caché que si ce frère, qui s'appelait Jacques, n'était pas mort, il n'en serait pas de ce monde. Et en effet, il a à peine sa place dans cet appartement familial où il est sur le canapé du salon. Il n'a jamais eu sa chambre. Et il n'a jamais eu d'endroit pour y mettre ses jouets non plus.
Vous évoquiez les yeux de Michel Piccoli. Dans votre livre, vous citez ces mots que lui a écrit son ami Serge Reggiani. « Tu as le regard d'un homme qui aime et qui sait regarder. Tes yeux ont toujours exprimé la plus grande curiosité. Ce regard n'est pas inquisiteur, mais avide de tout voir et de tout savoir, de tout connaître. Je ne t'ai jamais vu porter de lunettes, en as-tu seulement besoin ?» Reggiani notait magnifiquement cela chez Piccoli, l'importance pour lui du regard dans son jeu, mais aussi dans la vie, à travers ce qu'il disait de son bonheur de regarder les autres exister. Le regard de ce comédien n'était-il pas l'un des héritages les plus précieux de son enfance solitaire ?
Bien sûr, puisque c'est un enfant qui n'a guère d'autre chose à faire que de regarder, d'observer. Il est seul, il n'a pas beaucoup de jouets, et il observe son père, sa mère, ce qu'il perçoit de tension entre eux. Il observe ses oncles et ses tantes qui viennent le dimanche, qu'il n'aime pas trop, qu'il trouve crispé, qu'il trouve nostalgique d'une ère révolue.
Du côté de sa mère.
Du côté de sa mère. Et effectivement, il les regarde comme un scientifique observerait des insectes. Et son œil s'est vraisemblablement exercé là déjà, oui.
Enfant mutique, adolescent problématique, violent, qui connaît une scolarité chaotique, le jeune Michel Piccoli se retrouve un jour dans un collège à Annel, près de Compiègne. Un lieu qui a sans doute été déterminant pour la suite de son existence. Qu'est-ce que c'était que ce collège d'Annel, Anne-Sophie Mercier ?
C'était un collège où on acceptait des enfants dits à problème. Alors, il y avait de tout, il y avait des enfants qui, comme Michel Piccoli, étaient considérés comme mutiques, très aphasiques. Il y avait aussi des attardés mentaux. Il y avait des enfants avec toutes sortes de psychoses qui étaient accueillis là par un couple. Lui était psychiatre et elle était, on va dire, plutôt comédienne. C'était sa femme. Et ils avaient organisé ensemble ce collège qui était un collège privé, qui accueillait surtout des fils de la bourgeoisie. Évidemment, on n'y dispensait pas un enseignement classique, c'était tout l'intérêt de ce collège. On se levait le matin, gymnastique, sport, activité dans les champs, et puis on allait au théâtre, on montait des représentations, on rigolait, on s'amusait, on discutait beaucoup, on contestait, et c'était un endroit hors norme qui a totalement reformaté un Michel Piccoli qui arrive, faut bien le reconnaître, à l'âge de 11 ans, entre 11 ans et 12 ans, en perdition.
Dans cette nuit que nous consacrons à Michel Piccoli, nous l'entendrons dire un conte d'Andersen. On peut dire que ce fut au collège d'Annel et avec Andersen que le comédien a découvert sa vocation.
Oui, je crois que c'est la première fois qu'il est monté sur les planches pour un conte d'Andersen, effectivement, qui s'appelle Les habits neufs de l'empereur. Et il dit d'ailleurs, il a témoigné là-dessus, il a dit « J'étais l'un des voleurs, c'est l'histoire d'une manipulation, hein, les habits neufs de l'empereur, j'étais l'un des voleurs et complètement imbu de mon rôle, je trouvais que notre entreprise criminelle était somme toute salubre. » Alors ils sont très applaudis par les parents qui sont venus. Et dans un premier temps, il comprend pas l'aspect, le côté complètement central pour lui de ce moment-là. Et puis après, il a quand même dit, par la suite, je compris l'exacte importance de cette représentation. Pour la première fois, il existe, il est quelqu'un, il se transcende et il n'oubliera jamais.
Michel Piccoli a 15 ans en 1940 et paradoxalement, l'occupation va être pour lui l'occasion, en s'éloignant de Paris et de ses parents, de vivre un moment de liberté, de prendre l'air, de respirer.
Oui, parce que le collège d'Annel a déjà déménagé, et puis la guerre éclate, le collège, on décide de fermer les portes du collège, et Michel Piccoli rejoint une partie de sa famille en Corrèze, à Tulle. Il faut prendre un vélo, il faut y aller, il faut traverser la France. C'est un chaos absolument invraisemblable, et lui, dans ce chaos, il connaît un bonheur fou parce qu'une fois de plus, on en revient à la question que vous me posiez au départ, il est libre, il est sur son vélo, il fait ce qu'il veut, il se débrouille, il prend des chemins de traverse, il voit des gens qui pleurent, des gens qui ont peur, il voit des filles qu'il trouve jolies, il vit intensément. C'est une période qu'il a décrite avec de façon saisissante, je trouve.
Michel Piccoli sera donc comédien. À quoi ressemble le théâtre après-guerre dans lequel il fait ses premiers pas ?
C'est un théâtre, vous savez, le théâtre d'avant-guerre est très marqué par ce qu'on a appelé le cartel, c'est-à-dire Dulin, Pitoëv, Jouvet, etc. Ces quatre metteurs en scène qui dominent totalement la scène culturelle
avant-guerre. Avec Batty.
Voilà, avec Batty, pardon, je l'oubliais. Et c'est vrai que ces quatre-là n'ont pas plongé dans la résistance. Et à la libération, ça leur est reproché entre les lignes. Et ils perdent de leur influence. Et émerge alors une espèce de théâtre avant-gardiste, très agressif, très créatif, dans lequel Piccoli se meut avec délice. Et il y donne, me semble-t-il, toute sa mesure.
Vous écrivez qu'au début des années 50, l'expérience la plus marquante pour le théâtre et sans doute aussi pour Michel Piccoli a certainement été celle que menait Jean-Marie Serrault au théâtre de Babylone, Anne-Sophie Mercier.
Oui, c'est un théâtre qui se trouvait boulevard Raspail, qui a aujourd'hui disparu et qui a été le réceptacle de toutes sortes de textes avant-gardistes. Et Piccoli y a tout vécu. Il a vécu des émotions théâtrales, il a vécu des émotions politique aussi, parce que Jean-Marie Serrault, qui est le père de Colline Serrault, était très engagé à gauche, et on y défendait un théâtre engagé et combatif. Et il a aussi connu tout ce qu'il a aimé par la suite, c'est-à-dire la vie de troupe et le petit boulot qu'on fait dans un théâtre, c'est-à-dire on distribue le programme aux spectateurs, on balaye après, on donne un coup avec le marteau, un petit clou parce que la moquette s'est détachée. C'était ça, c'est le théâtre de Babylone. Et pour Piccoli, c'était tout simplement une famille.
On le sait, vous l'avez dit au début de notre entretien, Michel Piccoli a toujours été un homme de gauche, donc il a aussi connu une grande expérience politique au théâtre de Babylone. Que ce soit un temps, donc un homme de gauche, que ce soit un temps à proximité du Parti communiste et surtout dans son constant soutien au Parti socialiste, on ne peut évidemment s'empêcher de voir dans cette sensibilité la réaction qui fut précoce à son origine familiale aux experts Besançon.
Moi, je le crois vraiment. Alors, c'est vrai, il faut dire que Michel Piccoli n'a pas connu physiquement son grand-père. Hein, il est né 9 ans après sa mort. Mais il a fait plusieurs fois allusion, d'ailleurs de manière discrète. On sentait que le sujet pour lui était lourd, à ce qu'a représenté son grand-père sous la Troisième République. C'est quelqu'un qui fait la une de l'assiette au beurre, qui est combattu par des personnalités de premier plan, comme Clémenceau, qui empêche finalement le combat ouvrier d'avancer sur cette question du saturnisme. On ne peut pas imaginer une seconde que Michel Piccoli, qui savait qui il était, n'a pas structuré sa vie exactement en opposition à ça. Et vous citiez le Parti communiste, le Parti socialiste, bien sûr. Il a aussi été très proche de la LCR. Il n'a jamais laissé tomber Krivine. Quand les copains de la Ligue ont voulu acheter un bâtiment à Montreuil, il a hypothéqué des biens qu'il avait. Il s'est même jamais préoccupé du plan de remboursement ou de rien. Enfin, faut entendre Alain Krivine, qui était à l'époque à la Ligue, raconter ça. Piccoli, c'était l'engagement total. Oui, vous avez besoin. Bah oui, qu'est-ce que je peux faire? Et il sortait le carnet de chèques, il arrivait.
Sa sensibilité politique ne devait-elle pas d'ailleurs quelque chose à cette mère dont Michel Piccoli disait qu'elle avait été elle-même une révoltée?
Oui, c'est sûr. On ne peut pas dire que la mère de Michel Piccoli était à gauche. Mais la mère de Michel Piccoli est quelqu'un qui s'est extraite de son milieu. Elle a choisi de vivre modestement de son art. Elle était prof de piano. Elle a choisi d'épouser un homme qui n'était pas de son milieu et qui était un petit violoniste. Et donc, elle a choisi une existence qui n'était pas une existence véritablement de bourgeoise. Elle a choisi aussi de faire élever son fils dans des structures totalement à rebours de ce que la bourgeoisie pouvait rechercher à cette époque-là. Il est évident que Marcel Piccoli était un esprit libre qui a eu sur son fils une influence profonde.
En déroulant le fil de son histoire de comédien, qui n'avait d'ailleurs pas d'agent, on s'aperçoit que la liberté dans ses choix artistiques, qui caractérisait Michel Piccoli alors même qu'il était devenu un acteur de premier plan, on s'aperçoit que dès ses débuts, c'est cette liberté qui a guidé ses choix. À propos de Beckett, Jeunet, Ionesco, Audiberti, il ne manquait d'ailleurs pas de rappeler ces auteurs, aujourd'hui sanctifiés et honorés, n'étaient, lorsque je les ai joués, que des gens honnis, répudiés et scandaleux.
Oui, il n'a jamais été rebuté, c'est le moins qu'on puisse dire, par les marges. Donc des auteurs honnis, scandaleux, ça ne le dérange pas. Ça ne le dérange pas au théâtre, ça ne le dérange pas au cinéma, où son travail avec Ferreri en a fait quand même hurler plus d'un. Ça ne le dérange pas aussi de passer 2 heures avec un jeune metteur en scène ou un jeune scénariste absolument inconnu. Donc la marge de la marge, n'ayant pas un rond pour le payer, ça n'a jamais été un problème. C'était vraiment la liberté artistique poussée à son maximum.
On peut dire qu'il y a toujours eu chez lui une forme d'aversion pour le convenable, le bon goût et pour les institutions comme le conservatoire ou la Comédie française.
C'est certain. Alors le conservatoire, je crois qu'il l'a fait en partie en candidat libre parce qu'il n'avait plus l'âge de s'y présenter. Mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui a toujours eu face aux institutions une attitude, on pourra dire, réservée. C'est le cas par exemple face à une institution théâtrale qui est Racine. La langue racinienne, avec sa grandeur, sa pompe, c'est quelque chose qu'il a toujours éloigné. Donc oui, c'est un homme qui, je ne sais pas s'il veut dynamiter les institutions, mais il se tient à distance raisonnable.
Il y avait également chez Michel Piccoli un goût pour le canular, pour la farce, le déguisement, le grotesque. On pense à son amitié avec Vian et aussi au film parodique qu'il tournait avec Paul Pavio, par exemple.
Ouais. Ça, c'est un des films formidables qui s'appelle Devoir de vacances. Et c'est tourné à Saint-Tropez et c'est formidable parce qu'on découvre que Piccoli est aussi un génie du burlesque. Il incarne dans ce petit film commenté en voix off par Boris Vian, il incarne un apprenti comédien vaniteux, grotesque, qui se présente à Saint-Tropez, qui essaye de trouver un impresario, qui essaye de trouver des rôles, qui va sur la plage, qui rentre son ventre, qui essaye d'être avantageux. C'est un des films les plus drôles qui soit et Piccoli explose face à la caméra.
Buñuel, Ferreri, Sautet, Oliveira, Rivette, Carax, tellement d'autres, Godard, Le Mépris évidemment, dont on entendra Michel Piccoli évoquer le tournage dans l'une des archives de cette nuit. De la très riche filmographie de Michel Piccoli, on peut évidemment extraire une multitude de films importants pour le cinéma, pour lui, pour nous, ou même de films que sa seule présence parvenait à rendre captivants. Et puis, il y eut aussi, dans l'histoire du comédien Michel Piccoli, un rôle important, c'était en 1965, à la télévision.
Don Juan, je vous trouve à propos. Et je suis bien aise de vous parler ici plutôt que chez vous pour vous demander vos résolutions. Vous savez que ce soin me regarde et que je me suis en votre présence chargé de cette affaire. Pour moi, je ne le sais point, je souhaite fort que les choses aillent dans la douceur. Et il n'y a rien que je ne fasse pour porter votre esprit à vouloir prendre cette voie et pour vous voir publiquement confirmer à ma sœur le nom de votre femme.
Hélas, je voudrais bien de tout mon cœur vous donner la satisfaction que vous souhaitez, mais le ciel s'y oppose directement. Il a inspiré à mon âme le dessein de changer de vie. Et j'ai point d'autre pensée maintenant que de quitter entièrement tous les attachements du monde, de me dépouiller au plus tôt de toutes sortes de vanités et de corriger désormais par une austère conduite tous les dérèglements criminels où m'a porté le feu d'une aveugle jeunesse.
Et ce dessein d'enjoint ne choque point ce que je dis. Et la compagnie d'une femme légitime peut bien s'accommoder avec les lois de pensée que le ciel vous inspire.
Hélas, point du tout, c'est un dessein que votre sœur elle-même a pris. Elle a résolu sa retraite et nous avons été touchés tous deux en même temps.
Mais sa retraite ne peut nous satisfaire, pouvant être imputée au mépris que vous feriez d'elle et de notre famille. Et notre honneur demande qu'elle vive avec vous.
Je vous assure que cela ne se peut. J'en avais pour moi toutes les envies du monde et me suis même encore aujourd'hui conseillé au ciel pour cela. Et de ce que je l'ai consulté, j'ai entendu une voix qui m'a dit que je ne devais point songer à votre sœur et qu'avec elle, assurément, je ne ferais point mon salut.
Croyez-vous nous éblouir, Don Juan, par ces belles excuses?
J'obéis à la voix du ciel.
Quoi, vous voulez que je me paie d'un semblable discours?
C'est le ciel qui le veut ainsi.
Vous aurez fait sortir ma sœur d'un couvent pour la laisser ensuite.
Le ciel l'ordonne de la sorte.
Nous souffrirons cette tâche en notre famille.
Prenez-vous-en au ciel.
Et quoi, toujours le ciel?
Le ciel le souhaite comme cela.
Il suffit, Don Juan, je vous entends. Mais ce n'est pas ici que je veux vous prendre, et le lieu ne le souffre pas. Mais avant qu'il soit peu, je saurai vous trouver.
Vous ferez ce que vous voudrez. Vous savez que je ne manque point le cœur et que je sais me servir de mon épée quand il le faut. Je m'en vais passer tout à l'heure dans cette petite rue écartée qui mène au grand couvent. Mais je vous déclare pour moi que ce n'est point moi qui veux me battre. Le ciel m'en défend la pensée. Mais si vous m'attaquez, nous verrons ce qui en arrivera.
Nous verrons. De vrai, nous verrons.
Don Juan ou le Festin de Pierre de Marcel Bluval. Michel Piccoli, Claude Brasseur, bien sûr, formidable Hans Ganarel, Anouk Ferjac, qui était Elvire, et dans l'extrait que nous venons d'entendre, Michel Leroyer en Don Carlos affrontant Don Juan. 1965, Michel Piccoli a 40 ans, et on est tenté de dire qu'avec ce Don Juan, c'était, pour un large public tout du moins, comme l'avènement du comédien qu'il allait être dorénavant, en termes de puissance, de subtilité, de maîtrise de son art, et peut-être surtout de pouvoir de séduction.
Oui, d'ailleurs, Marcel Buval, qui est réalisateur de ce mythique Don Juan, ne s'y était pas trompé. Il ne voyait personne d'autre jouer ce rôle. Peut-être aussi parce que on en revient encore à la liberté. Buval avait conçu ce Don Juan comme un hymne à la liberté. Par exemple, Vitesse le concevra totalement différemment des années plus tard. Pour Buval, c'est avant tout un homme libre et un homme qui court délibérément, lucidement à sa perte. Et il ne voyait personne d'autre que Michel Piccoli pour le jouer. Et en effet, Piccoli endosse le rôle avec un tel talent, un tel génie, on peut dire, que 12 millions de téléspectateurs vont rester scotchés en le regardant et en regardant aussi Brasseur. Il faut savoir qu'après cette diffusion, il y a eu une espèce de soirée géante organisée à Aubervilliers par un homme qui était peut-être un peu oublié aujourd'hui, qui s'appelait Jack Ralite. Jack Ralite était à l'époque journaliste à l'Humanité, il s'occupait du théâtre, et il a fait venir en plein air des milliers de personnes venues de tous les horizons, des profs, des ouvriers, des étudiants, des universitaires, et on parlait, et il y avait une espèce de ferveur, je crois. On a du mal à imaginer ce que cette soirée a pu être.
Cette présence, cette séduction, ce mystère, fallait-il la quarantaine pour que Michel Piccoli devienne Michel Piccoli, Anne-Sophie Mercier?
Peut-être bien. En tout cas, il a parlé à plusieurs reprises de son parcours en expliquant que pendant longtemps, il s'était cherché et qu'il n'avait pas, qu'il avait un peu papillonné à droite à gauche et qu'à force de papillonner, il n'avait choisi aucun grand rôle. Ce qui est peut-être vrai, là, il collectionne les expériences passionnantes. Il faut peut-être attendre le Doulos de Melville pour voir Piccoli affirmer son style, sa séduction et ses potentialités.
À partir des années 60-70, avec les films de Claude Sautet notamment, Michel Piccoli devient sans doute la plus parfaite incarnation, triomphante ou fragile, de l'homme avec un grand H de ces années-là.
Oui, d'un certain homme, c'est-à-dire une bourgeoisie hantée par le doute, une bourgeoisie fragile qui connaît les ruptures sentimentales, les problèmes professionnels, le chagrin, les années qui passent. Mais oui, bien sûr.
Et pour autant, vous l'avez dit tout à l'heure d'ailleurs, cet idéal du moi masculin dans lequel il aurait pu confortablement s'installer, Michel Piccoli se sera appliqué dans le même temps à le tenir en respect, que l'on pense à Thème Rock, à Dillinger est mort ou à La Grande Bouffe et à quantité d'autres films.
Oui, c'est-à-dire que, en effet, il incarne les tourments de la bourgeoisie pompidolienne, on peut dire, et il incarne aussi, quand il joue Thème Rock, il joue un ouvrier. Qui se trouve licencié en raison de ses difficultés avec son patron, un ouvrier qui ne parle jamais, qui ne s'exprime que par grognement, qui vit une relation incestueuse avec sa sœur, qui est cannibale, qui est homosexuel, qui mange un flic qu'il cuisine et qu'il déguste et qui trouve que c'est pas mauvais. C'est ça aussi au même moment, Michel Piccoli. C'est un bourgeois qui s'interroge et c'est un prolétaire qui tente toutes sortes d'expériences.
Et pourquoi, dites-vous, il y a toujours chez Michel Piccoli cette dimension de protection du corps de la femme? Cela court dans toute sa carrière.
Parce que ça revient beaucoup dans les témoignages qu'il a pu livrer à droite à gauche. Ça revient aussi dans un témoignage qui m'a été donné par Andrea Ferréol elle-même sur le tournage de La Grande Bouffe où Ferreri ne se montrait peut-être pas très sévère ou très sourcilleux avec les photographes de plateau qui n'arrêtaient pas de tourner autour d'elle. Elle était très dévêtue dans certaines scènes et qui essayait toujours de la prendre dans des positions scabreuses, ce qui l'a mise à un certain moment extrêmement mal à l'aise. Elle se sentait humiliée, elle se sentait comme une bête traquée sur ce plateau, et Ferreri était là, mais qu'est-ce que c'est que tout ça, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, etc. Elle est allée voir Piccoli, qui à son tour est intervenu auprès de Ferreri en disant, bon, on arrête ça. Et du jour au lendemain, les photographes de plateau sont partis. Bardot a livré un témoignage assez proche en disant qu'il l'avait toujours protégé sur le témoignage du mépris, des paparazzi, aussi peut-être d'un certain voyeurisme assez général, et qu'elle lui en a toujours été reconnaissante en dépit des différences énormes qui existent entre ces deux personnes.
Bonjour mesdames, asseyez-vous, je vous en prie.
Merci monsieur.
Je vous présente Mathilde, Charlotte et Belle de Jour.
Belle de Jour? C'est original.
Vous voulez peut-être vous rafraîchir?
Plus tard, plus tard. Rien n'a changé chez Anaïs. Toujours le même accueil à la bonne franquette. Le même rideau. Qu'est-ce qui s'est passé avec la dompteuse qui était chez vous?
Je sais pas, pas une nouvelle.
Le chauffage est au maximum.
Vous non plus, vous n'avez pas changé.
Tiens, le fauteuil. Il neigeait. Toujours ce même parfum, si particulier.
Fidèle au jasmin. Vous avez bien un moment à nous consacrer, j'espère. Oh,
toute ma vie, toujours beaucoup de loisirs. Bon, je voulais rester seul avec Belle de Jour.
Non, non, je ne veux pas.
Qu'est-ce que c'est que ces manières? Voulez-vous bien rester? C'est quelqu'un de très gentil. Mais quelquefois un peu nerveuse.
Vous êtes content? Ne dis pas que c'est par hasard, vous saviez que j'étais ici.
Vous vous trompez.
C'est de votre faute. C'est vous qui m'avez donné cette adresse.
Je vous dis que vous vous trompez.
Si vous approchez, je crie. J'emmeute les passants, je me jette par la fenêtre.
C'est votre lit?
Vous me répugnez, je vous l'ai déjà dit. Oui, c'est mon lit! Qu'est-ce que vous voulez savoir encore?
Vous aimez être humilié? Pas moi.
Ne dites rien à Pierre.
Pierre? Je l'admire de plus en plus.
Ne lui dites rien, je vous en prie. Faites un effort pour me comprendre, vous au moins. Je suis perdue. Tout se passe malgré moi. Je n'y peux rien, je ne peux pas résister. Je sais qu'un jour, il faudra que j'expie pour tout ce que j'ai fait. Mais sans ça, je ne pourrais pas vivre. Après tout, faites ce que vous voulez avec moi.
Pas maintenant, en tout cas. Vous comprenez, ce qui m'a attiré en vous, je ne sais pas, c'était sans doute votre vertu. Vous étiez la femme d'un boy scout. Avouez que tout ça a changé. J'ai des principes, moi. Je ne suis pas comme vous. Mais je ne dirai rien à Pierre, bien entendu. Mais j'ai des amis qui seraient enchantés de vous savoir ici. Je peux vous envoyer du monde. Pardonnez-moi cette défaillance. Ça ne me dit rien, vraiment. L'autre jour, peut-être. Qui sait? Je ne dois pas vous faire perdre votre temps. C'est pas pour vous, mais vous achèterez des chocolats à Pierre de ma part. Au revoir.
Belle de Jour, 1966, Louis Buñuel n'a-t-il pas été le réalisateur le mieux accordé à la liberté, à la fantaisie et au grain de folie de Michel Piccoli?
Oui, ces deux-là se sont trouvés. Il y a un grain de folie chez Michel Piccoli et il y a d'une certaine façon le même chez Buñuel. Il ne faut pas oublier que ces deux-là se rencontrent sur la scène théâtrale parce que Buñuel est un amoureux du théâtre. Il croise plusieurs fois Michel Piccoli. Et quand il décide de tourner La mort en ce jardin, je crois que c'est en 1956, Piccoli a très envie de rentrer dans l'univers de Buñuel. Et il ne sait pas trop comment faire, et il essaye, il se pousse un peu du col, il le raconte lui-même, Buñuel bouge pas trop. Il faut dire que le personnage auquel il pense pour La mort en ce jardin ne correspond pas trop à Piccoli. Et puis, bon, Piccoli finit par envoyer un télégramme et lui dire « Bon alors, je suis prêt, allons-y ». Puis Bon, de guerre lasse, Buñuel lui dit « Ok, venez, on va faire ce tournage ensemble. » Et il l'accueille, ça se passe à Mexico, Buñuel, toujours décalé, toujours un peu fou, et qui lui dit « Mais écoutez, Piccoli, je suis ravie de vous voir. Vous ne correspondez pas du tout au rôle, mais je suis quand même ravie de vous voir. » Et finalement, Piccoli s'impose dans ce rôle, dans La mort en ce jardin. Mais c'est comme ça que les deux hommes se sont trouvés. Buñuel avait un côté dingue, et je crois que le grain de folie de Piccoli l'a effectivement séduit. Ils se sont trouvés, ces deux-là. Et il y a un témoignage très beau dans les dialogues égoïstes que Michel Piccoli a écrit, où il parle de Buñuel, et Buñuel, dans ses mémoires, dit à quel point il est heureux aussi d'être son ami.
Au fond, Michel Piccoli, héritier d'une certaine manière d'une haute bourgeoisie déclassée, n'aura-t-il pas vécu et pratiqué son métier de comédien en parfait aristocrate ?
Oui, je vous l'ai dit, c'est quelqu'un qui se donne le luxe de choisir. Et comme l'argent ne compte pas, il va même créer une société de production de films qui s'appelle les Films 66, qui va même faire faillite. Il prend tous les risques. Il fait à l'envie. C'est tel est mon bon plaisir. J'ai envie de travailler avec Buñuel. Je ne sais pas ce que ça va me rapporter. Ça n'a aucune importance. J'ai envie de travailler avec Melville et de faire ce rôle-là et pas autre chose. Et ça n'a aucune importance. J'ai envie de donner sa chance à un jeune réalisateur et peut-être que ça ne me rapportera rien. Ça n'a aucune importance. Et ça, c'est, en effet, vous avez raison de le dire, c'est un comportement d'aristocrate. Il n'y a rien d'alimentaire là-dedans.
Anne-Sophie Mercier, merci. Nous allons écouter les nombreuses archives qui composent cette nuit consacrée à Michel Piccoli. Dans un instant, entretien avec Michel Piccoli au micro de Moussa Abadi en 1969. Claude Sauté et Michel Piccoli à propos des choses de la vie au micro de René Régent dans un extrait de Cinéma Vérité en 1970. Un entretien de Claude Jean-Philippe avec Michel Piccoli en 1981 dans le cinéma des cinéastes. André de Richaud, poète maudit par Michel Piccoli en 1970. Michel Piccoli pour Le saut dans le vide de Marco Bellocchio en 1980. L'homme du hasard, une adaptation de Catherine Lemire, du texte de Yasmina Reza, avec Michel Piccoli et Jeanne Moreau, diffusée la première fois en 1995. Michel Piccoli pour Mauvais sang de Léos Carax, dans Microfilm de Serge Danet en 1986. Les contes de Hans Christian Andersen, présentés par Régis Boyer, élus par Michel Piccoli. 12 en voiture de poste et autres contes, diffusés la première fois en 1993. Le conte d'hiver de Shakespeare, mise en scène Luc Bondy. Un extrait de l'émission avant-première d'Yvonne Taquet en 1988. Michel Piccoli au micro de Lucien Atoun pour La maladie de la mort de Marguerite Duras, mise en scène Bob Wilson, dans Profession spectateur en 1997. Et enfin, Festival d'Avignon, texte nu, Michel Piccoli lit René Crevel, première diffusion en 1988. Nous nous retrouverons dans 6h15, juste avant la fin de cette nuit consacrée à Michel Piccoli. A tout à l'heure.